VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 23 juin 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. L'Union européenne valide la candidature de l'Ukraine. Kiev travaille à une visite de Macky Sall, président de l'Union africaine en Ukraine. La Cour suprême des États-Unis consacre le droit au port d'armes hors du domicile à New York. À Kigali, Boris Johnson défend l'accord sur les migrants avec le Rwanda, en marge du sommet du Commonwealth. Au Togo, le gouvernement interdit un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a entériné aujourd'hui la candidature de l'Ukraine, une étape hautement symbolique, près de 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe qui continue de progresser dans l'Est à coups de bombardements destructeurs. L'annonce de la validation de la candidature de Kiev et de celle de la Moldavie a été faite par le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a évoqué un moment historique. Cette décision très attendue par l'Ukraine marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion. C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-Union européenne. S'est félicité pour sa part très rapidement sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'Union européenne. L'Ukraine travaille à une visite à Kiev du président de l'Union africaine, Macky Sall, pour aider à renforcer la pression sur la Russie. C'est une révélation du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui s'est exprimé dans un journal sénégalais. Les détails avec Abdourahman Dia.
Dimitro Kouleba se dit convaincu que le président Macky Sall peut jouer un rôle important en tant que président en exercice de l'Union africaine. L'Ukraine compte lui délivrer les informations nécessaires pour renforcer la voix de l'Union africaine, en particulier pour demander à la Russie de mettre fin à l'agression militaire contre l'Ukraine, dit-il. De nombreux pays dans le monde n'ont pas encore réalisé que l'agression de la Russie contre l'Ukraine est une guerre d'agression, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne. Malheureusement, parmi ces pays figurent de nombreux pays africains, a-t-il regretté. Macky Sall a été reçu le 3 juin en Russie par Vladimir Poutine. Il ne s'est pas rendu en Ukraine, mais avait annoncé son intention de le faire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lundi par visioconférence devant les membres de l'Union africaine. Les dirigeants africains se sont alarmés des conséquences de la flambée des cours des céréales et des effets du blocus des ports ukrainiens.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a invalidé une loi de l'État de New York sur le port d'armes. Les possesseurs d'armes de cet État ont le droit de les porter à l'extérieur de leur maison. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Cette décision a été prise à une majorité de 6 juges conservateurs sur 9. Le 2e et le 14e amendement de la Constitution protègent le droit d'un individu à porter une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile, écrit le juge Clarence Thomas. La NRA, National Rifle Association, puissant lobby des armes, a salué une victoire. Cette décision porte sur une loi qui limite depuis 1913 la délivrance de permis de port d'armes aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourront avoir à se défendre, par exemple en raison de leur métier ou de menaces les visant. Elle avait été contestée en justice par 2 propriétaires d'armes à feu new-yorkais qui s'étaient vus refuser des permis et une filiale de la NRA. Selon le projet Small Arms Survey, en 2017, près de 400 millions d'armes étaient détenues par des Américains. L'an dernier, plus de 20 000 homicides par arme à feu ont été recensés par le site Guns Violence Archives.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet et allié du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été totalement acquitté ce jeudi en appel, condamné dans le même procès que Kamerhe. L'homme d'affaires libanais, Sami Jamal, a aussi été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 63 ans, avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars. Cette peine avait été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021. Lors des audiences, ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2023. Toujours en RDC, la police indique avoir interpellé des jeunes porteurs de machettes qui voulaient s'en prendre aux habitants, à des habitants de Kinshasa, de l'ethnie Tutsi notamment, accusés de soutenir le M23. Il s'agit d'individus qui avaient tenté de troubler l'ordre public et de stigmatiser d'autres personnes, d'après le général Silvano Kasongo, le chef de la police de la capitale congolaise. La résurgence du M23 a provoqué une nouvelle crise entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa accusant Kigali de soutenir ces rebelles, ce que dément le Rwanda. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth se réunissent demain vendredi et samedi à Kigali, capitale du Rwanda. Le premier ministre britannique qui est arrivé ce matin à Kigali a défendu l'expulsion de migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda. Mohamedou Mfa nous en dit plus.
Comme le prince Charles, la veille, le premier ministre Boris Johnson a été reçu ce matin par le président Paul Kagame. Les deux dirigeants se sont entretenus du partenariat Royaume-Uni-Rwanda sur la migration et le développement économique qui s'attaque aux dangereux gangs de passeurs tout en offrant une chance de se construire une nouvelle vie dans un pays sûr, a déclaré Downing Street dans un communiqué. Ce que les critiques doivent comprendre, c'est que le Rwanda a connu une transformation totale au cours des deux dernières décennies, a souligné Boris Johnson. Aucun migrant n'a pour l'instant été expulsé dans le cadre de ce programme. Le premier avion à destination de Kigali a été bloqué à la dernière minute le 14 juin par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement britannique a présenté hier au Parlement un projet de loi pour permettre d'outrepasser la décision de cette cour.
La première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique a été inaugurée ce jeudi au Rwanda avec pour objectif de fabriquer d'ici début 2024 des traitements contre le COVID-19 et d'autres maladies à destination de millions d'habitants du continent. L'usine installée par le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech à Kigali est la première de trois prévues sur le continent africain. Dans l'est de la Centrafrique, six rebelles et un civil ont été tués aujourd'hui dans des affrontements entre la coalition des patriotes pour le changement, CPC et des soldats gouvernementaux. Dans la nuit, les rebelles ont attaqué Bakuma, une petite ville à 780 km au nord-est de la capitale Bangui, a assuré le sous-préfet Simon-Pierre Gbaté. L'attaque et le bilan ont été confirmés par un officier de l'armée centrafricaine. Huit casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali ont été blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une mine dans la région de Tombouctou, en proie à des violences de groupes djihadistes, a annoncé l'ONU. Les blessés font partie du contingent burkinabé de la MINUSMA, a précisé un responsable de l'ONU. En juin, quatre casques bleus ont été tués par des engins explosifs, l'une des armes de prédilection des djihadistes contre la MINUSMA et les forces maliennes. L'un d'entre eux en est mort dimanche à Kidal. Au Togo, le gouvernement a une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé, invoquant cette fois des raisons sécuritaires. Le point avec Rosine Monezero.
La dynamique Monseigneur Pozro ou DMK, qui regroupe sept partis de l'opposition et six organisations de la société civile, a appelé à un meeting pour dénoncer la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité. Mais pour le ministre de la Sécurité, une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant est de nature à compromettre les efforts pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. C'est la première fois que le gouvernement évoque des raisons sécuritaires pour interdire un rassemblement à Lomé. L'opposition estime que c'est une mesure injustifiée. La DMK est un mouvement qui a soutenu l'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo à la présidentielle de 2020. Monsieur Kodjo conteste toujours les résultats de ce scrutin. Il vit en exil et n'a pas fait d'apparition publique depuis juillet 2020.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a dénoncé mercredi soir la récente série d'attaques politiques planifiées contre des églises qui a fait des dizaines de morts dans le pays. Il est évident que des gens malfaisants cherchent à plonger le Nigeria dans une tension religieuse, a souligné le président Buhari dans un communiqué. Ces récentes attaques n'ont pas été revendiquées, même pour le chef de l'État nigérian. Elles ont été orchestrées à des fins politiques par des ennemis qui souhaitent détruire l'unité du pays. L'ONU a annoncé jeudi la tenue la semaine prochaine à Genève d'une rencontre entre les présidents des deux chambres libyennes rivales pour tenter de trouver un accord sur un cadre constitutionnel permettant la tenue d'élections. Le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled El Mekri, ont accepté de se rencontrer au bureau des Nations Unies à Genève les 28 et 29 juin. Et puis le pape François, 85 ans, se rendra bien au Canada du 24 au 30 juillet. Le pape va visiter Edmonton, Québec et Iqaluit, a indiqué le Saint-Siège dans un communiqué. Un voyage lors duquel il devrait renouveler ses excuses historiques pour le drame des pensionnats autochtones administrés par l'Église. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute est quoi avec Lionel Gamba.
Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth se réunissent vendredi et samedi pour un sommet à Kigali, capitale du Rwanda. Le premier ministre britannique qui est arrivé ce matin au Rwanda, il a de nouveau défendu l'expulsion des migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars, a été totalement acquitté, a annoncé son avocat, maître Jean-Marie Kabengela. Condamné dans le même procès, l'homme d'affaires libanais Samir Jamal a aussi été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En Afrique du Sud, publication hier du rapport de 5000 pages après 4 ans d'enquête sur la corruption. 400 jours d'audition, plus de 300 témoins et l'examen de centaines de documents ont abouti à la mise en cause de près de 1500 personnes par une commission ad hoc présidée par le juge Raymond Zondo. Il a estimé les montants détournés à plus de 30 milliards d'euros.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Le Borussia Dortmund sur le point de recruter Sébastien Haller.
Oui, l'attaquant international ivoirien de l'Ajax Amsterdam est en Allemagne pour faire un examen médical avant de s'engager avec le Borussia Dortmund. Selon le quotidien allemand Bild, Sébastien Haller est sur le point de signer un contrat de 4 ans avec le club, deuxième de Bundesliga derrière le Bayern Munich, pour un montant de 31 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de 28 ans remplacerait Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City en mai dernier pour 60 millions d'euros. Haller s'est illustré la saison dernière en Ligue des Champions avec l'Ajax, inscrivant 11 buts en 8 matchs avant l'élimination du club néerlandais en 8e de finale.
Kevin Prince-Boateng prolonge d'un an au Hertha Berlin.
Oui, une saison de plus pour l'expérimenté milieu de terrain ghanéen de 35 ans au Hertha Berlin, dont il a contribué au maintien in extremis dans l'élite du football allemand. Kevin Prince-Boateng a été décisif dans la remobilisation du club allemand le mois dernier, lors du barrage retour face à Hambourg, remporté 2-0 par les Berlinois. Formé au Hertha, Boateng a porté au cours de sa carrière les couleurs de plus de 12 clubs, dont Tottenham et l'AC Milan. International allemand dans les équipes de jeunes jusqu'en espoir, il a ensuite opté pour la sélection du Ghana, le pays d'origine de son père.
Fin de la crise dans le basketball nigérian.
Le gouvernement nigérian a annulé sa décision d'interdire à toute équipe de basketball du pays de participer à des compétitions internationales pendant 2 ans. Les autorités avaient pris cette décision en mai dernier suite à la crise de leadership au sein de la famille du basket nigérian. En janvier, en effet, la Fédération nigériane de basketball a organisé 2 élections distinctes au cours desquelles le président sortant Moussa Kida est sorti vainqueur dans l'une, tandis que Igoshie Mark a été élu dans l'autre. Le 12 mai, le gouvernement avait alors annoncé le retrait immédiat du pays de toutes les compétitions internationales de basketball. Ce retrait a coûté à l'équipe féminine sa place à la Coupe du Monde FIBA de cette année en Australie.
Tennis, Serena Williams qualifiée pour les demi-finales du double à Eastbourne.
La superstar américaine s'est qualifiée hier pour les demi-finales du tournoi de double sur gazon d'Eastbourne avec la Tunisienne Ons Jabeur. Elles ont battu la Japonaise Yuko Ayuhama et la Taïwanaise Shan Hao Xing en 2-7, 6-2, 6-4. Contrairement au premier tour, il n'y a pas eu de retard à l'allumage pour la paire américano-tunisienne qui s'est imposée au finish en 1h05. En demi-finale, Williams et Jabeur affronteront la Polonaise Magda Linet et la Serbe Alexandra Krupnic.
Page de sport VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Un concert de casseroles a eu lieu hier soir à Dakar. Un défi lancé par la coalition d'opposition Yewi Askanoui et son leader Ousmane Sonko pour protester contre le régime du président Macky Sall après l'interdiction et la répression de leur dernière manifestation. Les opposants ont trouvé une nouvelle parade qui a été largement suivie, même si la méthode ne fait pas l'unanimité. Elle a fait vibrer la capitale sénégalaise. La correspondance de Seydi Abagay à Dakar.
Avec un peu plus d'harmonie, on aurait eu droit à un gigantesque concert de casseroles en plein Dakar. Les ustensiles ont en effet, pendant une dizaine de minutes, quitté les cuisines pour servir d'outils de manifestation. Armé de deux couvercles de marmite, Cheikh Diop participe à sa manière à l'appel d'Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewi Askanoui.
Vu qu'ils ne veulent pas nous laisser descendre dans la rue pour exprimer notre mécontentement, nous pouvons utiliser cette méthode. Nous sommes devant nos maisons et ici, personne ne peut nous arrêter. L'essentiel est de se faire entendre.
Alhaji Cissé, lui, n'est pas sorti de sa cantine pour participer à la manifestation. Son fer a repassé entre les mains. Ce tailleur n'adhère pas à la nouvelle méthode prônée par l'opposition.
Macky Sall et ses ministres de là où ils sont n'entendent pas du tout le bruit de ces casseroles. Donc pour moi, cela n'a pas de sens, surtout quand tu sais que la personne pour qui tu te bats est tranquillement assis dans son domicile.
À la question de savoir si cette forme de manifestation doit perdurer, Hassane Gueye est catégorique. Lui, qui doit aller travailler à 8h du matin, pense que ce mouvement ne doit pas se renouveler.
Non, il ne faut pas du tout pérenniser cette forme de manifestation. Le bruit perturbe la quiétude des malades, donc il faut l'éviter. Ils ont réussi le pari pour cette fois-ci, donc c'est bon, ça s'arrête là.
De 20h00 à 20h passées de 10 minutes, plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise ont vibré au rythme des klaxons et casseroles. Une forme de manifestation, pas si nouvelle, mais qui pourrait servir d'alternative à l'opposition. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Direction le Mali, une série d'attaques a fait 132 morts la semaine dernière dans et autour de la localité de Dialassagou, dans le centre du pays. Pour un témoignage, notre correspondant de la région, Tidiane Ouidraogo, a tendu son micro au maire de Dialassagou, Amadou Gendo.
Vers les environs de 16h, moi j'ai été alerté par une tierce personne qui me dit que le village a été assiégé par, en tout cas, des hommes armés. Et qu'ils sont plus de 200 motos et 2 par moto. Immédiatement, j'ai alerté les autorités compétentes. Donc après, j'ai rappelé encore. On me dit que ces gens sont toujours là-dedans, dans le village. Ils sont restés dans les villages jusque vers le coup de 1h, 2h du matin. C'est tout ce que nous connaissons. Et c'est pour te dire qu'il y a eu beaucoup de carnage. Donc vers aux environs de 17h, ils ont regroupé les gens, tous les braves valides qui étaient au marché. Parce qu'à partir de 16h, 17h, 18h, les gens sont tous au marché. Donc c'est un village de commerçants. Il y a beaucoup de clients et beaucoup de commerçants. Donc ils ont commencé à les rassembler sur une place publique, un à un. Donc c'est ainsi que tous les gens qu'ils ont rassemblés, donc ils les ont fait sortir à 3-4 km du village. Il paraît qu'ils les ont tous assassinés froidement.
Ceux qui ont commis ces forfaits, est-ce que vous connaissez leur identité?
Bon, on n'a vraiment aucune identité de ces gens. On sait seulement que vraiment c'est des gens qui sont armés, qui sont venus. On dit qu'ils parlent toutes sortes de langues.
Quelle a été la réaction de l'armée malienne quand vous avez alerté?
Moi je dirais que ça a été une réaction timide. Parce que c'est le lendemain vers 9h que l'armée a quitté ici. Et pour arriver à Dialassagou, d'après ce qu'on m'a dit, aux environs de 15h.
Comment sont les déplacés actuellement au niveau des bancasses?
Donc immédiatement, le préfet a mis une commission d'accueil en place, présidée par son premier adjoint, composée du service de développement local et des trois maires, les maires de notamment de Djalassagou, Bankas et celui de Ségué, parce que Ségué aussi a été partiellement attaqué à l'époque. Bon, mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, la population de Djalassagou est plus que effrayée. Le peu de gens qui restent là-bas, ils ont émis, en tout cas leur plaisir de voir l'armée rester.
Voilà, c'était un témoignage de première main sur les récentes tueries dans le centre du Mali avec Amadou Guendo, le maire de Djalassagou au Mali. Le Gabon attend son entrée officielle au sein du Commonwealth qui tient un sommet demain et samedi à Kigali au Rwanda. Si pour le gouvernement dont le pays reste membre de la francophonie, c'est une opportunité d'affaires, pour une partie de l'opinion, cette adhésion ne constitue pas un gage de développement car le Gabon avait tenté l'expérience de l'apprentissage de l'anglais à l'école, mais le bilinguisme est resté un rêve inachevé. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangenze.
C'est une classe avec tout ce qu'il y a de plus normal, des élèves et un professeur. La différence, c'est que les étudiants sont employés des administrations publiques ou privées. Ici, la formation en anglais s'étale sur 4 mois. Ursula Vomo souhaite devenir bilingue.
Alors, nous sommes dans un monde de nouvelles technologies et les choses avancent. Je voudrais en fait faire un complément sur mon CV.
10 ans plus tard, l'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire, voulu par les autorités gabonaises, n'a pas prospéré. Et ce projet avorté ne l'a jamais dévié de son objectif d'adhésion au Commonwealth, comme l'Angoulois est chercheur en histoire des relations internationales.
Est-ce que le Gabonais lambda comprend et sait de cette géopolitique, nouvelle géopolitique dans laquelle le Gabonais désormais va être engagé ici dans le Gabon? Alors, la question reste quasiment tout entière.
Pour le gouvernement, comme pour des milieux d'affaires avec un marché de 2,5 milliards de consommateurs, le Commonwealth est une niche d'opportunité. Yanis Obuma est entrepreneur dans le secteur bois.
Aujourd'hui, les machines que nous utilisons, ce sont des vieilles machines. Par contre, il y a des machines à l'extérieur, notamment chez les anglophones, où le même exercice que l'on pouvait faire en 40 minutes, 1 heure, on le fait maintenant en 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont enlevé certaines opérations qui réduisent considérablement le temps d'exécution. Donc je pense qu'en acquérant ces machines-là, on sera plus productif, on sera plus rapide et on pourra effectivement avoir un chiffre d'affaires plus conséquent que ce que nous vivons actuellement.
Du côté de la société civile, le Gabon ne se développera pas miraculeusement en adhérant au Commonwealth. Marc Onaï Sengui, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest.
Ce n'est pas une panacée adhérer au Commonwealth. Pour moi, je pense que c'est une opération de communication, tout simplement pour peut-être narguer la France, mais la France est la 5e puissance mondiale, donc quand des pays comme le Gabon se cherchent encore à offrir de l'eau à leur peuple, le débat devrait se poser sur la définition du développement. Qu'est-ce qu'on entend par développement du pays? Il faut que le peuple soit au centre des grandes décisions.
Riche en pétrole et en uranium, le Gabon, 2 millions d'habitants, a longtemps constitué une chasse gardée pour la France. Aujourd'hui, l'Hexagone a perdu du terrain au profit d'investisseurs asiatiques qui contrôlent désormais la plupart de ses secteurs stratégiques. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Coup d'envoi de la phase finale des opérations de l'African Lion, le plus gros exercice militaire d'Afrique sous le commandement de l'armée américaine. Pour cette 18e édition, les États-Unis et le Maroc travaillent une nouvelle fois main dans la main pour améliorer leurs compétences de soldats, mais aussi pour former les officiers. Parmi les faits saillants de cette année, des tirs d'artillerie sur la base militaire de Grès-la-Bouille, où s'est rendu notre correspondant au Maroc, Robin Dussène.
Le son des M109 brise brutalement le calme du désert. L'entraînement au tir de missile a débuté ici à la tombée de la nuit sur la base militaire de Grès-la-Bouille. Les munitions d'exercice vidées de leur charge explosive et non létale doivent frapper une cible distante d'une quinzaine de kilomètres.
Chargé, rapidement.
Mais pour le parterre de militaires américains rassemblés sous une tente, smartphone en main, prêts à dégainer et parfaitement alignés les uns à côté des autres, le spectacle est ailleurs. Tous n'attendent désormais qu'une chose, le lancement des missiles HIMARS. Le bruit est assourdissant, une traînée de fumée s'accroche à l'horizon. Ces missiles de fabrication américaine montés sur un camion ont été acheminés depuis le Wisconsin pour l'occasion. Leur portée peut atteindre les 300 km. Des armes de haute technologie bien utiles aux troupes ukrainiennes depuis qu'elles ont rejoint le front du Donbass. Mais ici au Sahara occidental, l'exercice est bel et bien terminé pour les soldats américains.
My name is Sergeant Doro.
Staff Sergeant Tyler Doro, l'un des hommes en treillis en charge des manœuvres.
Aujourd'hui, nous avons tiré trois missiles l'un après l'autre. Nous avons reçu l'ordre sur notre ordinateur de commande et nous avons effectué le tir à trois reprises. Pour le premier, il fallait faire le feu au commandement, le deuxième quand nous étions prêts et enfin le troisième à une heure précise donnée.
Cet exercice de tir d'artillerie s'inscrit dans le cadre de l'African Lion, des opérations militaires conjointes entre les forces armées royales marocaines et l'armée des États-Unis qui durent toute l'année, mais dont la phase finale a lieu pendant 10 jours au mois de juin dans le royaume, en présence de 7 pays ainsi que de l'OTAN, mais aussi d'une vingtaine d'observateurs internationaux. Une session annuelle gagnante-gagnante pour le colonel Hicham Lamrini, directeur de l'exercice.
Ce séjour sera mis à profit pour un échange d'expériences, si vous voulez, entre les deux parties, américaines et marocaines, particulièrement en matière de survie en zone désertique. Donc en gros, ce sont les activités qui sont planifiées au niveau de Grès-la-Bouille. Ce sont des sauts de parachute suivi de manœuvres, une première manœuvre d'une durée à peu près de 48 heures. Une fois les unités au sol et à l'issue de cette manœuvre, ils vont effectuer des missions à différents échelons dont la quasi-totalité vont être effectuées de nuit.
Finalement, ce jour-là, pas de saut en parachute. La faute à des conditions météo défavorables. L'African Lion, lui, se poursuit au Maroc jusqu'au 30 juin avec des missions dans les airs, en mer et sur terre. Robin Dussène à Marbès, au Sahara occidental, pour VOA Afrique.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.